Les colloques du Collège de France.
Maintenant, nous devons passer, et malheureusement le temps passe comme toujours trop vite, mais ce sera Francisco Jarauta qui... Où est-il? Ah, que je prie de prendre la parole. Francisco est professeur émérite à l'Université de Murcia et de la Humboldt-Universität de Berlin. Il a été vice-président du musée de la Reina Sofia, membre du comité scientifique de la Fondation Bottine, où il a connu Yves Bonnefoy. Il y a, pour citer quelques-unes de ses études, Kierkegaard, Fragmento y Totalità, Walter Benjamin, Ruskin, Las Piedras de Venecia, Pontormo, Diario. Sa bibliographie est réunie dans tout un volume, Francisco Jarauta et Las Fronteras de Babel. Il nous parlera, et là je vais regarder pour être correct, Yves Bonnefoy devant les peintures noires de Goya. Nous savons tous que Yves était fasciné de la peinture, de la présence, de la visibilité de la peinture dans tous ces aspects, toutes ces dimensions historiques, et certainement Goya sera une de ces expériences esthétiques centrales. Francesco.
Bonjour, merci, professeur Stiglitz. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci bien, Carlo, pour votre invitation. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de la journée. Et je considère que cette intervention aura une dimension plus, je ne dirais pas anecdotique, mais plus concrète sur une histoire qui a ses dates, les moments de la conversation et une fidélité que je peux faire, qui m'accompagne toujours comme lecteur de l'œuvre de Bonnefoy. La première fois que je me suis trouvé, à l'occasion, j'ai travaillé au musée Reina Sofia de Madrid, et dans le cycle de conférences au musée del Prado, et on parle de 1000 ans, le cycle avait été concentré sur l'œuvre de Goya. Je ne sais pas pourquoi l'invitation a décidé que Bonnefoy choisisse le thème de la peinture noire, toujours en pensant que dans l'œuvre antérieure de Yves, Goya n'a pas une présence. Et la même histoire pour la générosité de la réception de la part de l'Allemagne, des États-Unis particulièrement, et la fortune de Yves chez nous n'a été pas si relevante, mais a été vraiment corrigé par la présence et la reconnaissance qu'a eu Yves dans la grande feria del libro langue castellana que c'est Guadalajara, Mexico. Il est rentré très, très fier de... Je crois que c'est seulement la fête de Guadalajara ça qui donne une dimension populaire. Et Yves, toujours restant un poète intime, avait une sensibilité exceptionnelle pour se trouver là. Je vous parle du 21 mars 2001. Yves Bonnefoy, au auditorium del Prado, parle de la peinture noire de Goya. Il faudra attendre à 2006 pour avoir son livre Goya, la peinture noire, qui motive aussi mon intervention d'une manière très particulière. Je voudrais commenter seulement quelque chose. Pour tous ceux qui connaissent bien El Prado, ils savent bien que c'est une histoire, comme tous les musées, disait Rémi ce matin, qui commence avec la grande collection de peintures flamandes et allemandes, de Dürer à Patinir, Bosch, Van der Weyden, et après un long parcours, particulièrement sur la peinture italienne, peut-être que ce soit la Pinacothèque qui a la collection italienne et vénitienne plus extraordinaire, finira avec ce final de Goya, que c'est la collection de peinture noire. Et Prado, et Bonnefoy connaissait bien cette dimension, finirait avec la peinture noire. Toute l'histoire de la peinture viendra silencieuse, détruite presque, dans cette deux salles que je voudrais un peu guider pendant ces mots. Pourquoi ce choix de la part de Bonnefoy? On ne sait pas. J'ai eu l'occasion de parler sur l'argument, j'ai l'accompagné même à Madrid, et après, avec un autre grand ami, que c'est Jean Starobinski et Carlo, on a parlé très particulièrement de Goya. Et Goya, pour Starobinski, il est resté toujours un motif central pour la crise du 700. Si vous lisez les pages de 1789, les emblèmes de la raison, vous trouverez là ces centralités, ces particuliers moments dramatiques que représente Goya. Mais, ça c'est la question, le point d'attention de Starobinski, ce sont les fusillamientos de mai 3, et il ne parle pas de la peinture noire. À un certain moment, on pourrait dire qu'il y a une complémentarité, il y a une relation pour une conversation qui resterait encore ouverte. Ça, c'est, je voudrais commencer par là. Et je prends ce portrait de 1795 qui a un rapport très singulier avec les motifs que les éditeurs, et bien sûr Bonnefoy, a choisi par son Goya. Le peinture noir, on pourrait choisir un motif de la salle de peinture noire, mais non. Et c'est une œuvre que c'est comment Goya se présente malade, et ça veut donner toujours une certaine confusion, que l'histoire de Goya devient l'histoire d'un malade. Je ne suis pas tellement d'accord avec l'élection qu'on présente ici. C'est plus complexe. mais vraiment à avoir avec ce portrait, quand Goya décide de finir avec une étape première, c'est la dette de Goya avec la peinture italienne, c'est remarquable. Il fait son voyage en Italie juste la même année que Tiepolo meurt à Madrid pendant qu'il travaille dans le Palais Royal. Et Tiepolo à Madrid, Goya arrive à Venise et plus tard à Parma. Il rentrera avec un tout un monde représenté très bien par les 700 vénétiens et qu'il appliquera systématiquement pour les cartons, pour les tapis dans lesquels travaille presque une douzaine d'années. Il y a un chromatisme singulier, le bleu, le rose, le jaune, c'est Tiepolo partout. C'est le modèle, c'est la référence, les yeux de Tiepolo. Goya les applique toujours à un système de production de tapis de l'école royale, un héritage qui a participé déjà le même Velázquez. Et Velázquez restera toujours pour Goya un exemple très fidèle. Ça serait très compliqué de dire, mais Goya se représente à la manière de Velázquez. Surtout quand Meninas à la fin, c'est un prétexte pour se faire le vrai autoportrait auquel il convoque le roi, l'intérieur de l'Alcázar, et il se présente comme le peintre. Comme peintre, pas comme le peintre, comme peintre surtout. Goya, avec une manière plus timide, se présentera. Mais arrive un moment dans lequel, ça c'est la vraie biographie de Goya, décide de ne faire pas de cartels, de cartons pour les tapis. Il abandonne Madrid et part pour le sud et passe trois années dans le palais d'un grand ami, que c'est Monsieur Martinez, qui a une collection exceptionnelle. Quand il était déjà peintre à la cour de Carlo IV. Et la collection royale, que se constitue le centre de la collection El Prado, a une richesse extraordinaire. Et le même Velázquez, quand il arrive de Séville à Madrid, reste très très touché quand dans le palais, l'Alcázar Real, se trouve avec Rubens qu'il fait des copies de Tiziano. Ça ne va pas. Rubens, en faisant des copies de Tiziano, ça présente que le rapport avec la grande tradition italienne, on peut la reproduire d'une manière ou d'autre manière. Goya, c'est la première expérience d'une maladie, on dirait comme ça, non identifiée, malgré que le docteur Arrieta cherche dans ce tableau que c'est de Goya à identifier sa maladie. La question, c'est simplement, il est sourde, profondément sourde. Et ça, elle représente un isolement très remarquable. Quand il rentre, ça serait très bien, je dois remercier Yves, quand il décrit les collections de tableaux que Goya trouve dans le palais de Martinez, entre eux, on parle des carceri de Piranesi. C'est la première fois que j'ai trouvé cette affirmation. Et je suis très. Parce que, bien sûr, Icarceri potrebbe. Ça serait justement pour Goya un document orientatif pour beaucoup de choses. À partir de ce moment, il y a une première transformation. Je vous raconte cette histoire pour arriver à la petite noire. À la petite noire, on n'arrive pas directement. On commence par la maladie de la subtilité et ça commence à dessiner 66 caprices. Il n'abandonne pas la peinture, mais il commence à travailler sur un domaine graphique. Rembrandt avait fait la même chose, mais surtout Dürer, il était le maître. Je vous présente le Capriccio 43. Si trouve à la Bibliothèque nationale. Et je ne répéterai les autres. Ce sont 66 caprices. El sueño de la razón produce monstruos. C'est Starobinsky qui a commenté ce capricho. Le rêve de la raison produit des monstres. 1798. Ce n'est pas un illustré. Il n'est pas un Aufklärer. Vede altro. Il transforme justement cette perspective des éléments qui s'installent dans l'imaginaire, je ne dis que pas d'un malade, mais de quelqu'un qui commence à voir derrière les ombres, cette dialectique entre lumière et ombre trouve justement c'est Bonnefoy qui affirme ça, les liens préférentiels. Il sera un explorateur de l'ombre. Mais il n'est pas seulement cette dimension de caprice ou de capricios. Il y a un autre domaine. Je dois aller vite. De peinture relationnée avec l'Inquisition. Nous sommes toujours dans les 97-18. Le tableau, petit tableau, il se trouvait al Prado, mais il y a, on pourrait organiser une vingtaine de tableaux avec ce motif. Celui en bas, protégé avec ce blanc vibrant, et la danse, cette danse de fous, de sujets identifiés par l'Inquisition, avec les capirotes, ce chapeau en point, qui gira au centre comme si une manière qu'on pourrait dire quasi une fantasmagorie. Le problème de l'Inquisition, c'est central. Et Goya reproduit caprices, les peintures sur folie et inquisition devant la guerre. L'armée napoléonique veut conquérir l'Espagne et arrive à Madrid. Devant la guerre, le premier autoportrait malade se transforme dans un autre qui pourrait dire qu'il n'y a pas une histoire centrée dans la mélancolie. Non, on commence la vraie histoire et qui a la guerre comme motif central. C'est un autoportrait que vous le trouvez aussi al Prado et que on pourrait signifier le vrai portrait de Goya. Nous sommes devant des étapes et on commence justement devant la réponse de Goya à la guerre. Starobinsky, il dit que justement, on pourrait faire un parallèle qu'il a présenté justement dans son essai. C'est le silence de la mort de Marat au Louvre, ce silence contre los fusilamientos de Goya de 1803. Le tableau, les fusilamientos sont passés en 1803. Et il attend 11 années pour faire ce tableau. On écrit et on peut le considérer justement comme pas un manifeste, c'est le tableau de la guerre. Ces deux plans que vous avez là, à gauche, cette ligne de soldats, en face, ce groupe qui seront fusillés, les témoins en attente, chaque tête qu'on pourrait voir en plus, si c'est bien de sang, et les gestes extraordinaire, ce contraste de pantalon jaune et la chemise blanche qui reste comme un. Goya, au même temps qu'il commence à peindre les fusillamientos, il commence une série que on, vous savez, le titre, Los désastres de la guerre. Ce sont 38 motifs qui racontent l'histoire de ce qui se passe dans la guerre, les victimes de la guerre. Quand on parle de séries comme caprichos, comme maintenant comme désastres, c'est très important Goya. Laisse la couleur or de son travail. Il disait justement, et Starobinsky raconte aussi, c'est la couleur qui donne corps à l'illusion. Sans couleur, nous tombons directement sur le noir. Et le dessin a la force formidable d'expression de cette situation limite. Petit détail. Ce n'est pas si maladie ou folie, mais ce qui se passe, c'est la transformation de la technique pictorique. Manet, quand, à l'occasion de son voyage à Madrid en 1863, il regarde ce tableau et dans une lettre à Émile Zola, son ami, il dit vraiment, c'est la première fois que je me trouve devant un vrai tableau de la guerre. Quand le Guernica, pour vous donner un petit exemple, est arrivé définitivement au Reina Sofia, nous avons placé justement, Reina avait en le grand front pour le Guernica, toujours la guerre, à gauche, los fusilamientos, et en face, le grand tableau de Picasso sur la guerre de Corée. Tableau qui se trouve maintenant à Malaga. D'abord, c'est lui qui reste. Et toujours en travaillant sur le désastre de la guerre, il achète une petite maison, la Quinta del Sordo. On l'appelait déjà El Sordo, le Sourde. Et c'est vraiment le scénario auquel je voudrais vous accompagner pour voir qu'est-ce qu'il se passe dans la Quinta del Sordo. J'écris un texte sur l'argument que j'ai présenté à Venise à l'occasion du 10e centenaire de la mort de Tiepolo. L'ho intitolato, j'ai donné comme titre Il 700 cancellato. On pourrait comparer même avec les autres grands peintres. David, par exemple, et la transition des dernières années, lui, Goya, se trouve devant cette villa, Quinta del Sordo, qui a été très bien étudiée par notre ami Valeriano Bozzal, il est mort quelques mois, avec les détails, et a été la première, le rez-de-chaussée et le premier étage peintes, décorées avec des peintures italiennes. Encore, si vous regardez attentivement les peintures noires, parfois on peut trouver des petits de bleu qui se trouve, des gens qui se trouvent là. Il fait comme ça. Il détruit toute la peinture italienne. Les peintures noires ne sont pas peintes directement. Avant, ça a été questo 700 cancellato. toute la peinture intérieure disparue. C'est le geste d'un fou. Le film sur Goya, on cherchait à interpréter justement cet arrebato. On élimine la peinture. Et qu'est-ce qu'il y a pour substituer la peinture italienne? Tout d'abord, quelque chose qu'on pourrait dire mythologique, qui préside la salle. La salle a trois éléments que je vous raconterai, mais au centre, c'est Saturne. C'est compliqué d'imaginer comment est-ce qu'il arrive reprendre la figure de Saturne. C'est Klibanski, c'est Panofsky, Saturn and Melancholy, le grand texte de l'école de Barber, mais ici associé, et c'est l'idée de Goya, c'est l'époque détruit ses enfants, détruit la succession généalogique, mais jamais on avait présenté avec ce dramatisme présente ici cette figure qui va plus loin de l'histoire humaine. Ce sont les dieux qui détruisent la vie. Vous pouvez voir l'expression les mains. Et c'est le corps d'une fille et reste justement comme un... Tout à 4 ans entre 1919 et 1923. 1819 et 1823. Los desastres d'un côté, les peintures noires de l'autre, comme un dialogue. Ça a été justement admirable, comment Yves, au lieu de se précipiter dans l'histoire, pas à pas, il suit toujours les détails de cette histoire. Petit détail. On pourrait interpréter Goya comme une vraie exception. Une exception exceptionnelle. Il n'existe pas dans la peinture européenne quelque chose de semblable. C'est un radicalisme délirant.
Le temps passe.
Comment? Ah oui, il faut faire vite. Mexica. Nous avons déjà à Saturne au centre. Le rituel peut commencer. Et il invente un parcours de figures qui accompagne Saturne, c'est la Judith qui tue Holofernes. Les détails, je dois être très attentif au président. Et ça, c'est très important de voir comment on dirait, les Manet, cette touche Manet, avec un. Voilà comment organise techniquement sa peinture. C'est que c'est la compagne, le toujours avec lui à la Quinta del Sordo, c'est Leocadia, et la fait comme représente un duello. Voilà, extraordinaire ce détail. Yves fait des commentaires très documentés sur Leocadia. C'est très fréquent que tu passes une bibliographie très technique. Et c'est pourquoi, je ne sais pas, ça c'est question de la patience et aussi de l'intelligence que Yves a documenté cette Leocadia qui s'appelait Leocadia Weiss. Son premier mari était allemand. En Allemagne, à Madrid, mais ça a été une histoire un peu. Je ne voudrais pas les commenter, vous savez bien.
Il n'y a plus de temps pour commenter cette histoire.
Ah, ça il aura l'occasion.
Parce qu'il y a.
Ah, il doit faire.
Carlo qui...
C'est ça. Cet exemple de masturbation. Les détails. Par contre, le lecteur observe ce moment, la lecture, le vieux, le vieil. Et ça commence. Une autre traverse des scènes populaires que je vous présente rapidement.
Rapidement.
J'imagine que Goya pense dans un cœur populaire qui accompagne les sacrifices de Saturno. Mais encore plus, c'était à quel arrêt, avec la représentation de la magie, de la culture populaire. Je crois que la peinture noire attendait à Yves Bonnefoy. Il y a un rapport très empathique, seulement que, comme on dit au commencement du livre, voilà, c'était madame qui a parlé ce matin, et aussi à mon maestro Argan, il disait, je ne suis pas un historien, et n'attendrai pas de ma part un vrai livre d'histoire. J'ai fait mon doctorat avec Argan et ça m'a fait plaisir de savoir. Voilà. Voilà. C'est la grande séquence. Du personnage, voilà. Quand on finit la visite au peinture noire, il faut sortir del Prado. Maintenant, après la réorganisation, il faut passer par le 19e. C'est pas juste. Après ça, il faut partir tout de suite. C'est qu'on disait tout ça, c'est l'histoire. Non, il faut partir après voir ça. Mais qu'est-ce qu'il la dernière? et la technia. Cycle futur, il n'y a pas discours. Las parcas qui cherchent de voir et le futur, qu'est-ce qu'il sera. Mais peut-être, si les parcas ne réussissent pas à savoir si le futur, peut-être, et voilà, c'est le final, je calme, petit moment. Ah, voilà. Les chiens, le perron de Goya, absolument Turner. C'est lumière, c'est une lumière de Turner, turnerienne, formidable. Beaucoup de personnes que j'accompagnais quand on arrive devant ce tableau. Qu'est-ce qu'il fait, ce chien-là? Peut-être que c'est lui qui comprend le futur, qui a, dirait Yves, un horizon.
Et alors?
Voilà. Et c'est beau, ça, car ça, c'est très beau. Et finalement, quand ils partent pour les dernières années à Bordeaux, après toutes les crises, la maladie, la folie, la guerre, peut-être il y aura encore une réponse. Et ce sera ce dernier tableau fait peint à Bordeaux, la laitière de Bordeaux.
Voilà.
Que on pourrait, elle s'appelle Rosarito, et que peut-être c'est la fille de Leocadia et Goya. C'est déjà le premier tableau impressionniste. Voilà.
Et
merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.